Alors, bon sabbat à tous, bon matin, bon après-midi pour l'Europe et un bon matin pour nous au Québec. Je pense que le printemps cette année a été un peu exceptionnel au niveau de la température, car nous avons eu, du moins en ce qui nous concerne dans notre petit coin de pays, de belles journées de soleil et en même temps un peu plus de pluie que d'habitude, ce qui a donné une croissance rapide à toute la verdure, incluant les fleurs et les arbustes que Lucie aime beaucoup. Maintenant pour mon demi-sermon. Si nous prenons soin de lire la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, nous ne trouverons aucun point positif qui est mentionné au sujet d'une certaine attitude qui est très répandue dans notre civilisation. Elle est même regardée parfois comme une vertu. Et souvent, nous pensons que si quelque chose est accepté dans notre culture, alors, nous avons la tendance à ne pas se poser de questions, mais à croire que c'est correct. Je me souviens d'avoir lu quelque part que quelqu'un a donné comme définition de la culture comme quelque chose que l'on prend pour acquis. Beaucoup de gens qui se disent chrétiens ne se considèrent pas cela comme un problème. Je parle encore de l'attitude. Et nous pouvons même voir de plus en plus de ces autocollants sur les pare-chocs des autos qui mettent en évidence cette attitude. C'est une attitude que nous devons tous confronter. Et je dois admettre que je dois aussi rechercher cette conduite ou cet état d'esprit dans ma vie et la combattre. Cette attitude dont je désire parler aujourd'hui, c'est l'orgueil. Je me souviens d'avoir entendu, il y a quelques années de cela, un sermon sur ce sujet. Mais je crois qu'il est bon, à l'occasion, de revenir sur ce point, sur notre comportement humain. Et je désire prendre quelques minutes ce matin, ou aujourd'hui, pour rechercher ce que la Bible enseigne sur ce sujet et comment nous pouvons combattre ce type de conduite dans notre vie. Mon intention est de rechercher pourquoi certaines personnes pensent que c'est bien d'avoir de l'orgueil et pourquoi les Écritures disent qu'au contraire, cette attitude est mauvaise et je désire en identifier certains symptômes et voir aussi quelles sont les mesures que nous pouvons prendre pour le vaincre. Pourquoi certaines personnes pensent qu'il est bon d'être orgueilleux? Il y a aussi le fait que dans notre langue, l'orgueil n'a pas toujours les mêmes significations. Mais je crois que l'orgueil est un outil astucieux employé par notre adversaire pour créer la confusion sur le sujet de la signification de l'orgueil, afin qu'il puisse s'en servir pour son propre but, sans que le monde le sache. Certaines personnes pensent qu'il est bien d'avoir de l'orgueil. Mais pour certaines choses, et pas d'orgueil pour d'autres choses. Un usage commun qui est considéré positif dans l'utilisation de l'orgueil est le suivant. Être fier de ce que nous faisons, ou, en d'autres mots, cela signifie que nous avons fait de notre mieux. Je suis d'accord que la fierté peut nous motiver, ou motiver beaucoup de gens à faire de leur mieux. Mais nous devons nous poser la question suivante. Quelles sont les bonnes choses que la fierté nous motive à accomplir et que les fruits de l'esprit en nous n'auraient pas été capables de nous aider à accomplir? Est-ce que nous réalisons que si nous faisons les bonnes choses, mais le faisons pour les mauvais motifs, nous ne recevrons pour cela aucun crédit de la part de Dieu? Mais qu'est-ce qui est si mauvais en regard de l'orgueil? Il nous élève, il nous gonfle. Une personne orgueilleuse prend le crédit et a une attitude de prendre ce qui est tout le contraire de donner la gloire à une autre personne. On n'a pas à s'y reporter, je vais simplement lire dans Proverbe 29-23. Alors, Proverbe 29-23, l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Le problème de l'orgueil est qu'il nous pousse à voir les choses d'une manière très exclusive. Un peu comme une loupe, nous exagérons les bonnes choses que nous, de nous-mêmes, les bonnes choses sur nous-mêmes. Nous exagérons les mauvaises choses sur les autres Nous minimisons et atténuons nos défauts et diminuons les bonnes qualités des gens autour de nous si nous sommes motivés par l'orgueil. Les politiciens et les leaders de plusieurs groupes aiment jouer avec l'orgueil des gens. Et si quelqu'un décide de critiquer le gouvernement, il est aussitôt étiqueté antipatriotique ou antipatriote. De cette façon, les gouvernements, ça, ils peuvent éloigner les gens de la véritable source du problème. La réponse à une crise n'est habituellement pas une introspection. C'est une attitude qui est exprimée par un autocollant sur les pare-chocs. Le pouvoir de l'orgueil, on le voit en bon français, Gay Pride, entre autres. Un pouvoir de l'orgueil que l'on voit de plus en plus. L'orgueil est une force incroyablement aveuglante. Elle est employée pour faire la promotion de pensées de groupe et utilisée pour produire l'animosité entre les gens. Si le membre d'un groupe fait quelque chose de mal, alors tout le groupe est blâmé. Mais si c'est quelqu'un de notre groupe qui fait quelque chose de mal, alors ce n'est qu'un cas isolé, d'une mauvaise personne, n'est-ce pas? Ainsi, l'orgueil empêche les gens de voir le mal qui existe, même à l'intérieur de leur propre groupe. L'orgueil pousse les gens à avoir de la méfiance envers ceux de l'extérieur. Ils ne font pas facilement confiance dans la bonté et les bons motifs des gens qui ne sont pas de leur côté. L'orgueil pousse les gens à focusser sur ce qui est correct, au lieu de focusser sur qu'est-ce qui est correct. L'orgueil ne recherche pas la vérité, il recherche les opinions qu'il soutienne. L'orgueil focus sur lui-même individuellement ou collectivement et aime à prendre le crédit pour les choses positives, mais n'aime pas prendre les responsabilités pour les choses négatives et met les personnes sur la défensive. Les gens orgueilleux font la promotion de leurs propres idées plutôt que de rechercher la meilleure idée. Cela en milieu de travail, puis malheureusement même souvent à la maison. L'orgueil nous empêche de demander de l'aide quand nous en avons besoin. Puis combien de fois nous avons conduit à l'aveuglette avant de demander la bonne direction? On ne voulait pas déranger les gens autour. L'orgueilleux ne veut pas que les gens aient une mauvaise opinion de lui. Il est étonnant de voir à quel point les gens deviennent contrariés quand une personne qu'ils méprisent a une opinion autre que la leur. L'orgueil est un maître esclave en ce sens, et nous ne serons pas complètement libres aussi longtemps que nous nous inquiéterons de ce que les gens pensent. L'orgueil déforme notre pensée et nous cause de l'anxiété, ce qui aussi est traduit par le trac devant une audience dans certains cas. Quand une relation dans un couple marié se termine, par exemple, c'est une chose que je me souviens il y a plusieurs années de ça. Je me souviens à ce moment-là, à cette époque, le mari, il y avait eu des problèmes dans le couple, tout ça. Et le mari m'avait dit que c'est sa femme, finalement, qui l'avait laissé. Mais sa mère a dit à quelqu'un d'autre, à quelqu'un, que c'est lui qui a laissé sa femme. J'ai pensé, moi, à ce moment-là, le jeune homme m'a dit que c'est sa femme qui l'a laissé. Mais pour une raison poussée par l'orgueil, sa mère change la réalité en déclarant le contraire, comme si cela rend la situation plus acceptable ou honorable pour la personne qui a abandonné l'autre. Maintenant, quand je parle de l'orgueil, je ne parle pas contre le fait de maintenir une bonne réputation afin que nous soyons des modèles ou des témoins efficaces. Mais encore, quel doit être notre focus? L'orgueil met le focus sur le lavage de l'extérieur du plat, alors que l'humilité met le focus sur le lavage de l'intérieur du plat, ce qui en même temps rend l'extérieur propre. Lorsqu'on plonge dans l'eau, si on lave l'intérieur, automatiquement l'extérieur est lavé aussi. On ne peut pas empêcher les gens autour de nous de penser ce qu'ils veulent, que nous aimions cela ou pas. Les gens orgueilleux sont au fond des gens insécures. Quand dans le livre de Genèse, au chapitre 3, Adam et Ève prirent le fruit de l'arbre qui leur était défendu, quelle était leur motivation? C'est simple. Personne n'a le droit de nous dire quoi faire. Est-ce que c'était l'orgueil Et voyez où cela maintenant a conduit l'humanité. Les gens orgueilleux veulent être appréciés par le monde autour d'eux, alors que les gens confiants veulent être appréciés par Dieu. L'orgueil est encollé par-dessus un amour-propre superficiel, et cela est enseigné depuis des décennies dans les universités et endoctriné dans les écoles publiques pour mettre le focus sur l'estime de soi. Nous devons être confiants qu'à l'être le plus puissant de l'univers nous aime et désire que nous ayons une relation avec lui. On va se rapporter dans le livre des Psaumes, au chapitre 34, verset 2. Donc, le livre des Psaumes, au chapitre 34 et au verset 2. Donc, Psaume 34, verset 2. Oh, excusez-moi, c'est verset 3. J'ai fait une erreur. Alors, que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Maintenant, on va suivre au Galates, dans le livre de Galates, chapitre 6, verset 14. Donc, chapitre 6 et verset 14. Galates 6, verset 14. Ici, c'est Paul qui nous parle. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de mon Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme moi je le suis pour le monde. Nous allons suivre dans Luc maintenant. Luc 10, verset 20. Donc, le livre de Luc, au verset 10, chapitre 10, verset 20. Luc 10, verset 20. En fait, ceci est suite à une situation où les apôtres avaient chassé les démons. Donc, dans Luc 10, verset 20. Cependant, ici, c'est le Christ qui parle. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Voilà réellement d'où notre confiance, notre réjouissance doit provenir. C'est vraiment différent d'une attitude orgueilleuse. Suite à une certaine situation, nous disons que nous avons gardé la tête haute. Mais qu'est-ce qu'on veut dire réellement quand on dit qu'on a gardé la tête haute? Est-ce que nous déclarons que nous avons confiance dans notre relation avec Dieu ou est-ce parce que nous sommes orgueilleux? Nous avons besoin de nous débarrasser de la notion que l'orgueil a quelques vertus en elle-même. L'orgueil est mauvais pour nous et c'est la raison pour laquelle Dieu le déteste. Dieu est humble, tel que démontré par son Fils qui a dit « Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Ainsi, tous les deux, le Père et le Fils sont humbles. Alors, qui sommes-nous? Nous pour être orgueilleux. Je parle du sujet d'être humble et non pas de la fausse humilité en donnant l'impression d'être timide, pauvre, introverti ou quoi que ce soit du genre, mais de l'humilité qui vient de Dieu, qui nous rend enseignables et ne fait pas la promotion du soi. Il y a des proverbes, en fait, dans les livres des proverbes, qui parlent aussi de l'orgueil. On va aller à Proverbes 6, verset 16. Donc, livre des Proverbes, au chapitre 6 et au verset 16. Alors, 6, 16. Donc, Il y a six choses que l'Éternel, et même sept qu'il a en horreur. Et voici le premier, entre autres. Au verset 17, les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent. Au verset 18, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui s'hâtent de courir au mal. Au verset 19, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite les querelles entre les frères. Toutes ces choses qui suivent la première description ont commencé à être initiés par une attitude d'orgueil. Maintenant, on va aller dans le livre Romains, dans le livre de Romains au verset, chapitre 1, verset 28. Alors, Romains 1, au verset, Romains 1, verset 28, c'est ça. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Au verset 29, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse et de malignité. Les versets 30 et 31 donnent différentes descriptions de l'orgueil. Au verset 30, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelle à leurs parents, dépourvu d'intelligence. 31, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Et au verset 32, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui le font. Alors, dans toute cette liste de choses mauvaises qu'on vient de lire, dans les 30 verset 18 en continuant, dans toute cette liste de choses mauvaises, l'orgueil est l'un d'entre eux. Pas vraiment une liste de vertus, n'est-ce pas? Maintenant, on va tourner le livre des Proverbes, le Proverbe 8 au verset 13. Alors, le livre de Proverbes 8, verset 13. Proverbe 8, 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et au proverbe un peu plus loin, proverbe 16, verset 5. Donc, 16, verset 5. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Maintenant, dans le livre de Jacques, au verset 4. Dans le livre de Jacques, donc Jacques, au chapitre 4, versets 5 et 6. Jacques, chapitre 4, versets 5 et 6. Donc, au verset 5, « Croyez-vous que l'Éternel parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. » Au verset 6, « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, « Dieu résiste aux orgueilleux. » Mais il fait grâce aux hommes. Encore une fois, Dieu déteste l'orgueil parce que c'est mauvais pour nous. Au Proverbe 16, verset 8, je vais simplement lire pour ne pas s'y reporter. C'est quelque chose que nous avons souvent entendu. On a lu et souvent entendu. L'arrogance précède la ruine. L'orgueil précède la chute. Nous avons besoin de reconnaître que l'orgueil est mauvais. Et qu'actuellement, il est le pire des péchés parce qu'il est la mère de tous les péchés. C'est ce que Satan qui a, c'est ce péché qui a tourné Satan, a tourné Lucifer en Satan. Il a voulu l'exaltation de soi, ce qui est le summum de l'orgueil. L'orgueil provoqua la chute de Satan, la chute de Satan. Et il veut que ce soit aussi notre chute. Il travaille très fort. Alors, dans le livre, nous lisons d'où cette chute provient maintenant dans le livre d'Isaïe. On ira à Isaïe 14, dans le livre d'Isaïe 14 et au verset 12. Isaïe 14, au verset 12. Isaïe 14, 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Au verset 13, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Verset 14, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. On peut difficilement être plus orgueilleux que ça, n'est-ce pas? Caïn s'est fâché avec Abel, son frère, malgré que ce dernier n'avait rien fait pour mériter ce traitement. C'est l'orgueil qui le fit agir de cette façon, ne pouvant accepter que son frère, qu'Abel, reçoive un regard plus favorable que le sien de la part de Dieu. Un autre endroit qu'on voit dans la Bible, pourquoi les frères de Joseph étaient tellement en colère après lui? Encore une fois, je pense que c'est l'orgueil. Ce n'est pas qu'il leur fit beaucoup de mal, non. Ils ne pouvaient simplement pas, en fait, ses frères ne pouvaient simplement pas supporter que leurs jeunes frères reçoivent plus de faveur de la part de leur père qu'eux-mêmes. De la part de leur père qu'eux-mêmes. Il y a beaucoup d'exemples d'orgueil que nous pouvons avoir. L'orgueil de qui nous sommes, de ce que nous avons accompli, de ce que nous pouvons faire, de ce que nous savons, etc. Nous devons réaliser que le but de Satan est d'embrouiller la signification de l'orgueil en y ajoutant d'autres significations et en y attachant quelque chose de positif, tout en modifiant le sens, tout en modifiant le sens pour nous déconcerter, afin que nous ne réalisions pas à quel point nous devons faire un effort pour éliminer cette attitude dans notre vie. Je réalise qu'il est très difficile de se débarrasser de quelque chose qui est tellement enraciné en nous. L'orgueil nous élève et nous sentons bien, mais c'est un plaisir de très courte durée. Malachie, dans le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie semble parler de la culture de notre époque, car il y est mentionné dans le livre de Malachie, au chapitre 3 et verset 15, on va lire Malachie, donc le livre de Malachie, chapitre 3, verset 15. Maintenant, nous devons nous libérer, excusez-moi, Malachie 3, 15, maintenant c'est ça. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils s'échappent. Et ils échappent. Au chapitre 4, maintenant, au verset 1. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Cependant, nous devons nous libérer de cette dépendance, tout comme nous devons le faire pour tout autre péché, car notre salut en dépend, et c'est à ce point sérieux. Comment pouvons-nous identifier l'orgueil et en reconnaître les symptômes? Il y a une foule de situations que nous rencontrons chaque jour qui peut nous distraire et nous entraîner dans cette voie. Pour moi, un exemple, je réalise que je dois rechercher quelle est ma motivation. Lorsque quelqu'un me dit quelque chose qui ne me plaît pas ou qui me fait un reproche, il m'arrive souvent à ce moment-là d'être sur la défensive, plutôt que d'analyser calmement ce qu'on me dit et de voir si c'est exactement le cas, et alors de prendre les dispositions pour faire le changement nécessaire. Nous sommes tous différents les uns des autres. Et une situation qui peut être sans importance, comme entre autres le type de véhicule que nous conduisons, peut faire aux yeux de notre voisin toute la différence du monde, pendant que l'aspect général de notre terrain et de la taille du gazon prend pour nous toute son importance, alors que pour lui, c'est la dernière chose qui le préoccupe. Quelle est notre motivation? Est-ce que nous faisons quelque chose pour être agréable à Dieu ou le faisons-nous pour nous être agréable à nous? Le contraire de l'orgueil et l'humilité. Et cette grande qualité prend sa source dans les fruits de l'esprit. Plus nous développerons et emploierons ces fruits dans notre vie, et plus nous pourrons facilement éliminer toutes ces attitudes qui peuvent nous fermer la porte du royaume.